C'est la première fois depuis 45 ans qu'on fait une modification majeure à la Charte de la langue française.
Si vous me posez la question, est-ce que j'ai déchiré ma carte de membre du Parti libéral du Québec? La réponse, évidemment, c'est non. Est-ce que je vais voter aux élections pour le Parti libéral du Québec aux prochaines élections? C'est non également.
Bonsoir. On a appris dans les dernières minutes une nouvelle horrible en provenance des États-Unis. 14 enfants ont été tués dans une fusillade dans une école primaire à Uvalde, dans le sud du Texas. C'est près de San Antonio. Vous voyez d'ailleurs des images qui nous parviennent en direct de l'endroit en question. Sabrina Rivet suit ça pour nous. Sabrina, ça vient tout juste de tomber comme nouvelle. On sait très peu de choses, mais on compte déjà de nombreux blessés.
Oui, ce qu'on peut dire, déjà un bilan quand même assez meurtrier. Tu l'as dit, on parle de 14 enfants qui sont malheureusement décédés. Un professeur également qui aurait été tué lors de cette tuerie. Donc, on parle de 15 personnes au total qui sont décédées. Plusieurs blessés. Selon le dernier bilan, on nous dit à peu près une dizaine de blessés pour cette fusillade qui est survenue au cours des dernières heures dans une école primaire, voilà, à l'ouest de San Antonio. On est à Uvalde. Alors, c'est une petite municipalité d'environ 16 000 âmes. Alors, on le voit, important déploiement policier actuellement. Et ce qu'on nous dit, selon le gouverneur de l'État, le gouverneur Abbott, c'est qu'il y a un jeune homme de 18 ans qui aurait été arrêté, donc le tireur qui aurait été maîtrisé. Il serait, selon les informations du gouverneur, décédé. Mais évidemment, c'est vraiment une nouvelle qui est en évolution. On la suit actuellement, mais chose certaine, un bilan qui pourrait peut-être s'alourdir parce qu'on parle d'une dizaine de personnes qui sont blessées. On n'en connaît pas davantage, par contre, sur le motif. Hein, qu'est-ce qui aurait poussé cette personne-là ou ces personnes-là? Parce que c'est pas parce qu'on a arrêté une personne que c'est la seule personne qui est impliquée possiblement dans cette tuerie. Mais bref, on va suivre cette nouvelle qui est en évolution, Noémie.
Oui, bien, merci beaucoup, Sabrina. Ça nous rappelle tragiquement les événements de Sandy Hook il y a plusieurs années. Mm-hmm. Cette fusillade aussi survenue il y a une dizaine de jours dans un supermarché de Buffalo à New York. Donc, on va continuer de suivre les développements à Uvalde. Et un petit peu plus tard, notre collaboratrice Valérie Beaudoin, qui est spécialiste de la politique américaine, se joindra à nous. Donc, on va y revenir plus tard dans l'émission. C'est fait. Le projet de loi 96, la réforme de la loi 101 du gouvernement caquiste, a été adopté il y a quelques heures à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui suscite de vives inquiétudes chez certaines communautés, alors que d'autres jugent que la loi ne va pas assez loin. Simon Bourassa suit ce dossier à Québec. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Le vote a eu lieu cet après-midi vers 15 heures. Le premier ministre Legault a rencontré la presse après le vote. Puis selon lui, la loi est suffisante pour freiner le déclin du français au Québec.
C'est ce que dit François Legault, c'est ce que dit aussi le ministre responsable de ce projet de loi 96, Simon Jolin-Barrette. Donc, qui dote le Québec d'une politique linguistique, hein, qui va obliger aussi les autres professionnels à s'assurer que ses membres maîtrisent le français, qui renforce aussi le français comme langue de travail. Au cégep, ça, c'est une des considérations aussi pour les cégeps anglophones, 3 cours de français obligatoires. Mais il subsistait des questionnements puis des inquiétudes quant à la prestation des soins de santé. Est-ce que, parce qu'il y a des gens qui avaient soulevé la question des anglophones, est-ce qu'on va pouvoir continuer d'obtenir des soins de santé en français? Le premier ministre a répondu à cette inquiétude.
Le projet de loi 96, comme la loi 101, ne touche pas les services de santé en anglais. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire le contraire de ce qu'on a dans le projet de loi. Donc, les services de santé en anglais, c'est couvert par une loi qui est sous la responsabilité de Christian Dubé.
Et pour faire adopter son projet de loi, le gouvernement a pu compter sur l'appui de Québec solidaire.
Oui, il n'en avait pas besoin. On sait, le gouvernement de la CAQ qui est fortement majoritaire, mais quand même, d'avoir l'appui de partis d'opposition, bien, ça renforce quand même la position du gouvernement. Pour le PQ, le projet de loi, on le sait, n'allait clairement pas assez loin. Pour Québec solidaire, c'était un projet qui était bon, qui était correct, mais il y avait des inquiétudes quant aux langues autochtones. Donc, un gouvernement éventuellement solidaire, selon, donc entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba Gazal, s'attaquerait à ces problèmes-là qui n'ont pas été pris en considération dans le projet de loi 96. Puis pour le Parti libéral du Québec, bien, c'est tout simplement un projet de loi qui divise et qui sème l'inquiétude chez les anglophones.
C'est une leçon d'humilité pour le gouvernement qui prenait pour acquis qu'on allait voter pour son projet de loi. Aucun non. Alors, ceux qui se tiennent debout, qui sont fiers, qui ne sont pas des nationalistes là, de carnaval, bien, ils prennent position puis ils posent des gestes.
Le projet de loi 96 divise les Québécois, alors qu'on a besoin de s'assurer que tout le monde en soit des alliés.
Pour des raisons de droits et libertés, en partant, on avait un problème avec ce projet de loi-là. C'est pour ça que, dès le départ, on s'est opposé à cette législation.
Nous, l'engagement qu'on prend, c'est de corriger les erreurs dans ce projet de loi-là. Et on est tout à fait capable de reconnaître qu'il y a également des avancées.
Puis Simon, la députée indépendante Marie Montpetit a annoncé son départ de la vie politique cet automne. Et elle n'a pas été tendre envers son ancienne chef, Dominique Anglade, qui l'avait exclue du caucus libéral.
Oui, assez, Noémie, pour que Mme Montpetit ne vote même pas libérale aux prochaines élections, même si elle est une libérale dans l'âme. Souvenez-vous, Marie Montpetit, qui avait été ministre de la Culture, entre autres, sous Philippe Couillard, député de Maurice Richard, qui, l'automne dernier, avait été visée par des allégations d'harcèlement psychologique envers des employés de l'aile parlementaire du Parti libéral. Des plaintes qui avaient été formulées sous la forme suivante, une lettre envoyée au bureau de Dominique Anglade. Donc, aucun processus de plainte officiel auprès de l'Assemblée nationale. Ça nous a été reconfirmé aujourd'hui, d'ailleurs, par Mme Montpetit. Il n'y a jamais eu de plainte déposée à l'Assemblée nationale la concernant. Mme Anglade avait quand même décidé de l'écarter du caucus. Après 8 ans de vie politique, Mme Montpetit, qui ne se représente pas, n'a pas totalement fermé la porte, par contre, à la politique. Peut-être un retour un jour, mais présentement, elle a besoin, elle a dit, de faire autre chose. On l'écoute.
Je suis très déçue de la façon dont les choses ont été faites. Elle a fait un choix. Moi, je pense que la moindre des choses dans une situation comme ça aurait été de sa part ou de la part de son équipe de me contacter. J'ai été accusée, j'ai été jugée, j'ai été condamnée sur la place publique sans jamais pouvoir me faire expliquer ce qu'il en était, sans jamais pouvoir me donner l'occasion de me défendre, l'occasion de m'expliquer.
Merci, Simon. À bientôt.
Bonne soirée.
On va poursuivre la discussion avec l'analyste politique Dominique Vallière, que je joins à Québec. Bonsoir, Dominique.
Bonsoir, Noémie.
Donc, on sentait dans la conférence de presse de M. Legault et de M. Jolin Barrette à quel point ils semblaient satisfaits de l'adoption du projet de loi 96. Qu'est-ce que ça signifie pour ce gouvernement à quelques mois des élections?
Mais c'est une case qu'on peut cocher. Il y avait un certain nombre de promesses phares du gouvernement pour la dernière campagne électorale, notamment d'agir sur le front de la laïcité, on l'a vu avec le projet de loi 21, d'agir une réforme en immigration, on a vu la réforme du PEC au tout début du mandat, et là, il y avait la question de la langue française, donc avec le projet de loi 96, qui s'inscrit donc avec les autres promesses qui avaient été faites en 2018. Et je pense que le gouvernement va pouvoir ensuite se tourner vers l'électorat et dire... Regardez, les réformes qu'on vous a promises, on les a faites. Et maintenant, ben, on vous promet autre chose pour les 4 prochaines années et pas devoir traîner le boulet d'une promesse qui avait pris énormément de place lors de la dernière campagne électorale qui n'aurait pas été réalisée. Donc, je pense que ce soir, M. Jolin Barrette et M. Legault, ainsi que les stratèges de la Coalition Avenir Québec, vont peut-être avoir le sommeil un petit peu plus léger que par les semaines passées.
Puis parmi les partis d'opposition, bon, le PQ et le PLQ ont voté contre le projet de loi. Québec solidaire a voté pour. Quelle lecture tu fais de ces différents positionnements des partis d'opposition, Dominique?
Le projet de loi 96 a mis inconfortable presque tout de suite l'ensemble des partis d'opposition. Le Parti québécois avait réagi en disant « Mais mon Dieu, ça va pas assez loin », avait proposé par 3 fois des mesures pour aller un peu plus loin. Chaque fois, ces mesures-là ont été balayées du revers de la main par le gouvernement qui disait qu'il y avait des mesures semblables ou qui allaient avoir le même objectif qui se retrouvait dans le projet de loi 96. Et on s'accrochait à une mesure fétiche qui était celle de la loi 101 au Cégep, alors que historiquement, le Parti québécois, quand il avait lui-même déposé le projet de loi 14, quand il était au gouvernement, avait refusé de mettre la loi 101 au Cégep. Donc, on revenait puis on se disait que hors loi 101 au Cégep, point de salut. Donc, ça, c'est pour les péquistes, pour les libéraux. Mais au début, on n'excluait pas de voter pour le projet de loi 96. On était dans le tournant nationaliste qui n'aura duré qu'un hiver. Et finalement, pour dire, ben on ne sait pas si on va voter pour ou contre, on pourrait peut-être s'abstenir et finalement dire on va voter contre. Donc, c'est sûr que pour ces partis-là, il y a eu beaucoup de questions. Québec solidaire, qui, eux, ben, se disent on veut pérenniser les gains qu'on a fait en région. Je pense à Sherbrooke, je pense à Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Donc, on voulait voter en faveur, mais quand les gens, les étudiants en sciences politiques dans 40 ans vont regarder les livres d'histoire, ils se gratteront certainement la tête en se demandant pourquoi le député de Matane a voté du même bord que le député de Darcy McGee sur les questions de la langue. Bref.
Mais on le prend en note pour les futurs étudiants en sciences politiques. Merci beaucoup, Dominique Vallière, pour ton éclairage. On se retrouve bientôt.
Bonne soirée.
Au revoir. La question linguistique fait aussi l'objet de discussions à Ottawa, alors que le gouvernement fédéral donne le coup d'envoi à des consultations publiques sur les langues officielles. Des forums d'échange vont se tenir dans toutes les provinces et territoires au cours des prochains mois. Deux arrêts sont prévus au Québec, à Montréal et à Sherbrooke. J'en discute avec la politologue Stéphanie Chouinard et les professeurs au Collège militaire de Kingston. Bonsoir, Stéphanie.
Bonsoir, Noémie.
D'abord, explique-nous à quoi vont servir ces consultations.
Bien, ça va servir à voir à ce que la ministre Petitpas-Taylor rédige le prochain plan d'action sur les langues officielles. C'est des documents qui prévoient finalement l'action gouvernementale pour les 5 prochaines années, des plans quinquennaux. Donc, ça sera le moment de s'asseoir avec les membres des différentes communautés minoritaires, les Anglo-Québécois et les francophones hors Québec, pour voir qu'est-ce qui a été bien fait dans le dernier plan d'action. Qu'est-ce qui demeure à faire et qui demeure des priorités pour ces communautés-là et comment est-ce qu'on avance pour les 5 prochaines années?
Et le commissaire aux langues officielles a d'ailleurs remis un rapport la semaine dernière au gouvernement de Justin Trudeau pour lui faire des suggestions pour son prochain plan d'action. Qu'est-ce qu'il retient et toi, qu'est-ce que tu retiens comme élément qui pourrait être amélioré?
Oui, donc le commissaire aux langues officielles s'était donné un rôle de vigie, de voir à ce que les promesses faites en 2018 ont effectivement avancé d'ici à 2023. Il demeure un certain nombre d'éléments, malgré des avancements jugés satisfaisants dans un certain nombre de domaines. Notamment, on parle du domaine de l'immigration, où il y a eu plusieurs ratés. On parle de vouloir augmenter le nombre de francophones qui proviennent d'outre-mer, qui s'installent, surtout à l'extérieur du Québec, pour aider à pallier avec l'immigration anglophone, pour s'assurer que les communautés francophones en situation minoritaire ne disparaissent pas, finalement. De ce côté-là, il y a des manquements assez sérieux qui ont été dévoilés dans la dernière année. On parle aussi du domaine de l'éducation. On le sait, dans la dernière année, on a parlé beaucoup du post-secondaire en français avec la crise à l'Université Laurentienne, le campus Saint-Jean d'Alberta aussi, qui est en difficulté financière. Et l'un des autres enjeux que le commissaire soulève, c'est ce qu'on appelle les clauses linguistiques, c'est-à-dire lorsque le gouvernement fédéral signe des ententes bilatérales avec les provinces et les territoires, s'assurer qu'il y ait des clauses à l'intérieur de ces ententes-là pour assurer qu'il y ait des services dans l'autre langue officielle pour les communautés en situation minoritaire, quelque chose qui manque très, très souvent actuellement dans ces ententes-là.
Mais rapidement, Stéphanie, corrige-moi, mais la loi sur les langues officielles au fédéral n'a pas encore été adoptée. Elle a été déposée en mars. Donc, est-ce qu'on ne fait pas les choses à l'envers en ce moment?
Bien, j'ai l'impression que la ministre Petitpas-Taylor aurait bien aimé que la nouvelle loi sur les langues officielles soit adoptée avant qu'on embarque dans le prochain plan d'action sur les langues officielles. Effectivement, c'est un peu comme une épée de Damoclès qui lui pend au-dessus de la tête, puisqu'actuellement, on ne semble pas avoir de date précise pour la deuxième lecture du projet de loi, c'est-à-dire le moment où on commencera à débattre du projet de loi sur la loi sur les langues officielles. Donc, on a un peu l'impression, effectivement, de mettre la charrue devant les bœufs à certains égards.
Je te remercie beaucoup, Stéphanie, pour cet éclairage. On se retrouve bientôt.
Merci à vous.
Alors, un peu plus tôt au Texas, ce sont des images qui ont été tournées donc dans la ville d'Uvalde, cette petite communauté dans le sud de cet État, près de San Antonio, où l'horreur s'est produite dans les dernières heures. 14 enfants ont été tués dans une fusillade dans une école primaire. L'information a été confirmée par le gouverneur. Notre collaboratrice Valérie Beaudoin se joint à nous. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir, Noémie.
Alors, nous sommes tous sous choc d'apprendre cette nouvelle. Ça nous rappelle, bien sûr, la tuerie à Sandy Hook, dans une école primaire, il y a plusieurs années. C'est absolument horrifiant ce qui est en train de se produire aux États-Unis.
Et Noémie, j'ai l'impression qu'on est toutes les deux sans mots un peu face à cette horreur-là. Je ne sais même pas par où commencer parce qu'on se dit encore une fois une tuerie impliquant des enfants. Pas parce qu'une tuerie impliquant des adultes, c'est pas important, mais quand même, ça frappe l'imaginaire. Et tu parlais de la tuerie de Sandy Hook, ça va faire 10 ans cette année, en décembre, que 20 enfants ont perdu la vie dans des circonstances un peu similaires selon les informations qu'on a jusqu'à maintenant. Ça entre, comme tu l'as dit, au compte-gouttes, mais on sait que le tireur aurait abattu sa grand-mère avant de se rendre dans l'école primaire et d'abattre 14 enfants, une professeure aussi. Et ça, c'est le bilan qu'on a jusqu'à maintenant. On croise vraiment les doigts que ça ne s'empire pas. Mais quand même, la question qui revient, est-ce que ça changera quelque chose? J'aimerais tellement te dire oui, Mais j'ai l'impression, malheureusement, que ça sera encore très difficile de faire bouger les choses en espérant qu'il y ait quand même du mouvement là, à Washington à la suite d'une autre tragédie qui nous bouleverse tous aujourd'hui. Là.
Tout à fait. Puis si je ne m'abuse, il y a des données qui montrent que le nombre de fusillades est en recrudescence aux États-Unis, notamment depuis le début de la pandémie. On peut penser à celle qui est survenue dans un supermarché de Buffalo, dans l'État de New York, il y a une dizaine de jours, lorsqu'un jeune homme adepte de l'idéologie du suprémacisme blanc s'est rendu dans un supermarché, a fait feu, ciblé des personnes noires, tué 10 personnes, toutes noires. Donc, le contexte idéologique semble différent cette fois-ci. N'empêche que cette violence par arme à feu meurtrière, elle semble ressurgir.
Oui, oui, oui. Et il y a de plus en plus de ventes d'armes à feu. Les gens sont encore plus pro-armes qu'ils l'étaient il y a quelques années. C'est ça qui est assez surprenant. On se dit qu'avec les tueries, au contraire, les gens vont peut-être se dire non, il faut restreindre l'accès aux armes à feu, mais il y a quand même une montée. Pourquoi? Pour se protéger. Il y en a qui disent que c'est après les manifestations. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est justement en raison de la pandémie. On s'est senti moins en sécurité. On voulait se protéger. Bref, les raisons peuvent être multiples, mais là, de voir des enfants tués dans une école primaire complètement innocent. Et c'est certain qu'on aura une déclaration de Joe Biden dans les prochaines heures, prochaines minutes, justement pour nous dire ce qu'il pourra faire. Il a les mains liées, Noémie, tant que le Congrès ne veut pas agir, tant que les élus ne souhaitent pas agir. C'est extrêmement difficile de légiférer, surtout pour les armes d'assaut qu'on voudrait restreindre.
Mais je me souviens d'une conférence de presse que Barack Obama avait donnée. Il me semble que c'était dans la foulée de Sandy Hook qu'il avait voulu faire adopter des lois plus sévères sur le contrôle des armes à feu. Ça n'avait pas fonctionné. On avait senti sa colère pour une rare fois dans cette allocution. Qu'est-ce que Joe Biden peut vraiment faire, Valérie, en terminant?
Oui, et Barack Obama qui pleurait à cette conférence de presse, on l'a vu pleurer, le président des États-Unis, c'était après Sandy Hook, et Joe Biden qui était ébranlé dans les dernières tueries. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller avec certains pouvoirs présidentiels, mais c'est extrêmement limité. Mais je peux vous dire qu'il va faire pression sur les élus en disant, bien, le sang de ses enfants, vous en avez en partie sur vos mains parce que vous refusez de légiférer. Bien sûr, on n'a pas tout le portrait, on ne sait pas les raisons derrière tout ça. Est-ce que c'est problème de santé mentale? On peut dire que oui, c'est très clair si on décide de poser ce geste-là. Mais bref, on verra la suite des choses dans les prochaines heures, les prochains jours.
Merci beaucoup, Valérie, d'avoir pris le temps de nous parler. Au revoir.
Merci.
Trois jours après les violents orages qui ont secoué l'Ontario et le Québec, des dizaines de milliers d'abonnés d'Hydro-Québec sont toujours sans électricité. On fait le bilan au retour. Ça fait 3 mois aujourd'hui que la Russie est partie en guerre contre l'Ukraine. Quand on s'est réveillé le matin du 24 février, Vladimir Poutine avait lancé une offensive tous azimuts avec pour objectif de s'emparer de la capitale Kiev en quelques jours. Ça n'a pas fonctionné et les forces russes sont désormais concentrées dans l'est du pays. Sabrina Rivet nous résume les développements de la journée. Bonsoir, Sabrina.
Salut, Noémie.
Donc, la Russie, en ce moment, intensifie son offensive dans la région de Lugansk, qui est dans cet est du pays où la Russie est désormais concentrée.
Qui est en fait le Donbass. Hein. C'est vraiment dans cette région-là où c'est le plus compliqué, où il y a le plus présentement d'offensives russes, parce qu'on veut vraiment conquérir en fait cette région-là de l'Ukraine. Et d'ailleurs, le président Volodymyr Zelensky a précisé un petit peu plus tôt aujourd'hui que les militaires russes essaieraient vraiment d'éliminer toutes les personnes qui passent vraiment devant les militants russes dans le Donbass. Alors, vous dire à quel point c'est assez dangereux dans cette région-là. Par ailleurs, si on se dirige du côté de Mariupol, bien, encore une fois, une nouvelle complètement dévastatrice parce qu'on nous dit qu'il y a 200 corps qui ont été retrouvés dans le sous-sol d'un immeuble. Dans cette ville, les autorités ukrainiennes qui ont précisé que ce sont des ouvriers qui ont creusé dans les décombres et qui ont fait la découverte, c'est sans nous rappeler, en fait, les corps qui avaient été retrouvés dans un théâtre de Mariupol. Si on se transporte du côté de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, bien là, il y a une enquête pour crime de guerre qui a été ouverte. Et nouvelle quand même assez encourageante dans cette ville-là, c'est que le métro a été rouvert après 3 mois fermé, là, on sait, on le voit, là, les gens allaient se réfugier dans le métro. Bien là, maintenant, c'est rouvert.
Et Sabrina, le Canada a annoncé aujourd'hui qu'il enverra des armes supplémentaires à l'Ukraine.
Oui, le gouvernement du Canada qui va en fait envoyer 20 000 obus d'artillerie supplémentaires à l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé Anita Anand, que vous voyez d'ailleurs à l'écran en ce moment, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ottawa qui poursuit donc son aide à l'Ukraine. Tu le disais, ça fait 3 mois que le conflit a débuté. Et j'en ai profité pour demander à Affaires mondiales Canada combien le Canada a envoyé d'argent à l'Ukraine depuis le début du conflit. Voici les données que j'ai obtenues. Donc, depuis le 24 février dernier, ce qu'on voit, c'est que le Canada, en seulement 3 mois, a loué 806 millions de dollars à l'Ukraine. On parle de 245 millions de dollars en aide humanitaire, plus de 10 millions de dollars dans des nouveaux programmes pour soutenir, entre autres, la surveillance des droits de la personne et les initiatives pour les femmes. Et si on regarde, si on recule, par exemple, lorsque la Russie avait envahi la Crimée, ah ben là, vous voyez, on a fourni 942 millions de dollars entre janvier 2014 et décembre 2021. Ça fait beaucoup d'argent pour l'Ukraine. Et j'ai posé la question à un spécialiste. Est-ce qu'on a un lien particulier avec ce pays-là? Tout de suite, on peut aller l'écouter.
Le Canada est un des premiers pays qui a reconnu l'Ukraine en 1991 comme pays indépendant, quand, évidemment, elle a fait sécession, si on veut, de l'Union soviétique avec l'implosion de l'URSS. Le fait que l'Ukraine est présentement aux frontières d'un conflit avec la Russie. Le Canada y voit un intérêt aussi, je pense, géostratégique de l'aider. Parce qu'en aidant l'Ukraine, bien, essentiellement, ce qu'on fait, c'est comme la politique américaine, c'est d'affaiblir la Russie. Ce qui est particulier aussi avec la guerre en Ukraine, c'est qu'elle est hautement médiatisée. On en parle donc à tous les bulletins de nouvelles, au Québec, au Canada. Il y a beaucoup de pression politique pour le Canada, pour que le Canada en fasse plus. Il y a une pression internationale aussi.
Donc, je vais continuer à suivre le conflit. Il y a eu des frappes, notamment du côté de Kharkiv, au cours des prochaines heures. Donc, ce sera à suivre aujourd'hui.
Merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir.
Je vais retrouver en Ukraine la journaliste Tetiana Ogarkova du Ukraine Crisis Media Center. Je la retrouve à Bovary, en banlieue de Kyiv. Bonsoir, Tetiana.
Bonsoir.
Alors, on s'était parlé au tout premier jour de la guerre. On s'est parlé à quelques reprises depuis, puis vous nous avez vraiment permis de comprendre comment ça se vit sur place, les différentes phases de cette guerre. 3 mois plus tard, quand vous repensez à tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous auriez pu croire, il y a 3 mois, que vous seriez rendu là aujourd'hui?
Et non, malheureusement, je ne pourrais pas imaginer il y a 3 mois que je me retrouverais dans les conditions dans un pays en guerre, mais même il y a 3 mois, on ne pouvait pas imaginer que la guerre puisse entrer dans notre vie, mais vraiment. C'est-à-dire que l'expérience de la guerre, c'est une chose inouïe. En fait, malheureusement, ça ne se communique pas par des livres qu'on lit ou par des films qu'on voit, puisque c'est tout à fait autre chose quand les missiles tombent à côté de vous. Comme dans notre cas, c'était à 10 km d'ici, le matin, le 24 février. Ensuite, on a pris la fuite après une semaine passée à côté de Kyiv. Donc, jamais je ne pourrais imaginer que moi et ma famille, mes enfants, qu'on sera déplacés. On a passé 6 semaines en déplacement à l'ouest depuis, mais finalement, heureusement pour nous, on est des retours. On a de la chance, comme tous les habitants de Kyiv, de Jytomyr, des Soumy, les gens qui ont pu retrouver leur maison, leurs appartements après la défaite de l'armée russe justement à côté de Kyiv, mais malheureusement, tel n'est pas le sort de tous les Ukrainiens, puisque malheureusement il y a après tous les horreurs qu'on a appris sur Mariupol et avec Kherson occupé, avec aujourd'hui dans les minutes où je vous parle, il y a ce violent combat de Donbass qui poursuit à côté de la ville qui s'appelle Severodonetsk. Donc la guerre, elle transforme toute la société en fait, elle change tout et chacun, puisque chacun cherche sa place ou les autres cherchent leur fuite. C'est une expérience qui est difficile à partager, mm-hmm. Il est difficile à raconter en fait,
ouais.
Donc, mais ça a changé toute une nation.
Et 3 mois plus tard, qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir de continuer? On sent qu'il y a une réelle détermination de la Russie d'écraser l'Ukraine en tout ou en partie. Qu'est-ce qui vous donne la force de garder espoir en ce moment?
Mais ce qui nous donne la force, c'est bien sûr la logique et l'observation objective de ce qui se passe, puisque la Russie avait commencé ses attaques avec une attaque massive dans plusieurs directions, au nord, à l'est, au sud aussi. Mais on a déjà vu qu'ils ont bien échoué pour saisir la capitale. Ils ont échoué côté nord. Ensuite, côté est, la région de Kharkiv a été libérée, presque libérée. Aujourd'hui, je vous parle, il y a quelques encore petits endroits de la région de Kharkiv qui sont occupés, mais aujourd'hui, à Kharkiv, il y a le métro qui commence à marcher. Donc, c'est le grand retour à la vie. J'ai beaucoup visité les villages dévastés autour de Brovary. Il y avait 27 villages qui ont vécu sous occupation. J'ai aussi visité Boucha, Irpin, Gostomil. Et donc, j'ai pu constater qu'en fait, même après la guerre, après toutes les destructions et les morts qu'on a pu observer au mois de mars, la vie revient. Et en plus, elle revient vite. Les maisons se reconstruisent. Donc, il y a des, les gens ont tout nettoyé. Et c'est le printemps qui est beau. Donc, il y a, on voit les enfants aujourd'hui dans les rues de Boucha. Même sans parler de Kiev et Brovary, il y a les rires d'enfants. Donc, il y a cette volonté de vivre malgré tout. Et donc, en observant justement les échecs de l'armée russe que de nous priver de notre monde, on constate qu'on est fort encore pour continuer, pour les chasser définitivement de Donbass.
Quelle démonstration de résilience de la part du peuple ukrainien. Merci beaucoup, Tetiana, de nous en avoir parlé ce soir.
Merci. Au revoir.
Au revoir. On va faire le point sur les violents orages qui ont traversé le Québec et l'Ontario samedi. Les ménages toujours privés de courant se comptent encore par dizaines de milliers, même si Hydro-Québec promettait hier de rebrancher la quasi-totalité de ses abonnés. Étienne Fortin-Gauthier est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, Amy.
On en est où à l'heure actuelle?
Bien, on est loin de cette cible de 80 donc des Québécois qui avaient perdu le courant reconnecté. Actuellement, là, dans les dernières minutes, le dernier bilan d'Hydro-Québec, c'est que 108 000 foyers sont donc encore privés d'électricité. 108 000 foyers, donc encore plus de Québécois, ça, surtout dans les Laurentides, l'Outaouais, Lanaudière. Dans toutes ces régions, il y a des centres d'urgence qui sont toujours ouverts. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Bien, voici un tweet là, d'Hydro-Québec qui a été publié dans les dernières heures qui dit que depuis trois jours, bien, c'est un travail colossal que les forces d'Hydro-Québec doivent abattre. Il y a des armatures, là, comme celui qu'on voit actuellement dans cette vidéo là, qui a été publiée par Hydro-Québec, qui doivent être coupées. Il y a des tronçons complets de réseaux qui sont à rebâtir d'Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec dit même qu'il y a 200 poteaux qui ont dû être remplacés jusqu'à maintenant et qu'il y en a des centaines d'autres qui devront également donc être remis à neuf dans les prochaines heures. Donc, il est là, le défi. Il y a des soins, par contre, qui sont bien inquiets, notamment à Sainte-Adèle, où on a amené les téléspectateurs de nouveau hier. Mais aujourd'hui, l'information, c'est que ça va prendre encore plusieurs jours. Certains citoyens même craignent que ça prenne des semaines avant d'être reconnectés parce qu'ils sont un peu plus loin de la route. Donc, actuellement, il n'y a pas de bilan et de d'échéance pour la reconnexion de tous ces Québécois qui sont sans électricité encore actuellement, là.
Puis le milieu scolaire, Étienne, n'est pas épargné non plus.
Absolument, parce que pas d'électricité, ça veut dire pas d'école. Les systèmes d'urgence d'incendie, notamment, qui sont inopérants. Donc, les écoles sont fermées dans certains centres scolaires, notamment celui des Samars dans la Naudière. Il y a 6 écoles de fermées. D'autres écoles fermées en Outaouais, dans les Laurentides. Donc, il y a toute cette question-là qui est aussi problématique pour plein d'élèves ou peut-être qui sont heureux de ne pas avoir d'école, mais quand même, c'est un problème là, pour les centres de services scolaires.
Et parlant de l'Outaouais, après la tempête de samedi, maintenant, on craint la montée des eaux dans la région.
Oui, parce que beaucoup d'averses avec ces orages-là des derniers jours, ça a une conséquence, c'est que le réservoir Basse-Catogne est plus rempli qu'il ne devrait, et ça pourrait avoir des conséquences donc sur les installations. C'est Hydro-Québec qui gère ce barrage-là, et donc, ils ont décidé tranquillement de laisser couler de l'eau, mais donc ça fait craindre à plusieurs citoyens, Gatineau notamment, des inondations. On sait que dans ce coin-là, en 2019, il y avait eu des grosses inondations. Puis là, bien, à nouveau, il y a cette crainte-là. Il y a plusieurs citoyens qui disent qu'Hydro-Québec aurait dû mieux gérer la situation. Mais donc, dans les prochaines heures, il y a de l'eau qui va donc s'écouler du réservoir Basse-Catogne et on verra les conséquences sur les citoyens.
Bien oui, Gatineau qui avait aussi vécu des tornades, on se souviendra.
Bien, absolument.
Merci, Étienne, de nous en avoir parlé. On va continuer de suivre ce qui se passe au Texas avec Sabrina Rivet. Rebonsoir.
Rebonsoir, Noémie.
14 enfants, donc, ont été tués dans une fusillade dans une école primaire à Uvalde. C'est une petite ville située dans le sud du Texas, près de San Antonio. Donc, qu'est-ce qu'on sait exactement jusqu'à présent, Sabrina?
Oui, bien là, maintenant, Noémie, on a un petit peu plus de détails en lien avec les circonstances. Qu'est-ce qui s'est produit, en fait, aujourd'hui dans cette école primaire de Uvalde, au Texas? Alors, selon les autorités, il y a un homme de 18 ans, un résident de cette même municipalité, donc de Uvalde, qui a été arrêté. Il allait à l'école secondaire de Uvalde. Et là, on a reçu également, parce qu'il y a eu point de presse des autorités au cours des dernières minutes, on a eu de l'information du gouverneur de l'État du Texas, Greg Abbott, qui dit, selon lui, le tireur aurait tiré sa grand-mère avant d'entrer dans l'école primaire Robb, donc toujours armé d'un fusil. Et c'est à ce moment qu'il aurait ouvert le feu sur des jeunes de l'école primaire. Le bilan, c'est un bilan incroyable. Donc, on parle de 14 enfants qui sont décédés, un professeur également qui est décédé à l'intérieur. Et le gouverneur ne nous a pas donné de détails non plus quant à l'état de santé de la grand-mère du jeune homme. Bien entendu, énorme périmètre de sécurité. C'est un peu la cohue autour de l'école. Et imaginez des parents qui tentaient d'aller chercher leur enfant. C'est le cas d'un parent qu'on va entendre qui cherchait sa fille et aussi un témoin. On peut aller les écouter.
I keep asking questions of what's going on and nobody's telling me anything. So just confused and worried when I'm trying to find out where my baby's at.
That's just sad, I don't know what to say. It's sad.
En terminant, la Maison-Blanche a indiqué que le président américain Joe Biden était au courant de cette tuerie qui a eu place donc du côté du Texas. Et ce qu'on nous dit, c'est que Joe Biden va être tenu au courant d'évolution de cette nouvelle. On ne sait pas, par contre, encore s'il va parler ce soir ou peut-être demain en lien avec cet événement tragique survenu à Uvalde, au Texas.
Merci, Sabrina.
Ça fait plaisir.
La moitié des 400 avocats de l'aide juridique au Québec ont fait une demi-journée de grève cet avant-midi pour faire pression sur le gouvernement Legault, qui leur refuse les mêmes augmentations de salaire qu'il a accordées au procureur de la Couronne. Je reçois la présidente du syndicat des avocats de l'aide juridique de Montréal et Laval, maître Justine Lambert-Bouliane. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Bon, vous êtes sans contrat de travail depuis plus de 2 ans.
Exactement.
Qu'est-ce que vous voulez obtenir?
En fait, toutes les clauses normatives sont réglées avec notre employeur. Ce qu'on demande, c'est le maintien de la parité salariale avec les procureurs de la Couronne. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'on a déjà cette parité-là à travers nos différentes conventions collectives. On l'a retrouvée au dernier jour de notre convention, au 31 décembre 2019. Mais là, il semble qu'au 1er janvier 2020, on l'ait perdu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Le gouvernement refuse de reconduire cette parité-là salariale et de nous accorder là, les mêmes augmentations salariales que la Couronne.
Donc, à la Couronne, on accorde 10 % sur 4 ans. On vous propose les mêmes augmentations que la fonction publique, 6 % sur 3 ans. Bon, combien ça gagne un avocat de l'aide juridique au Québec?
Bien, il y a évidemment une échelle salariale. Là, qui est assez étendu. On peut gagner de 57 000 à peu près 120, 125 là, mm-hmm. 000 $ avec certains ajustements, mais on se comprend que la vaste majorité des avocats à l'aide juridique ne gagnent pas des salaires en haut de 100 000 $ là.
Okay.
On parle de salaires qui sont dans les normes, mais ce n'est pas tellement une question de chiffres. C'est vraiment une question de principe.
Mm-hmm.
Les avocats de la Couronne gagnent beaucoup plus que ça, vont gagner beaucoup plus que ça. Vous avez dit 10 % mais le 10 % c'est un minimum. Ils sont présentement devant les tribunaux. Ils contestent là, ce 10 %-là. Là. Il y a un rapport majoritaire qui a été rendu qui suggère, lui, plutôt 20 %.
Mais comment vous expliquez ce deux poids, deux mesures entre les procureurs de la Couronne et vous? Parce que quand on est à l'aide juridique, on traite de dossiers pas forcément évident.
Non,
vous n'êtes pas à court des petites créances, là, vous autres. Là.
Non, exactement. Alors, on plaide les mêmes dossiers devant les mêmes juges, dans les mêmes salles de cours, habillés avec la même toge.
Okay.
C'est la même chose. Et aussi, ce qu'on fait, c'est que nous, on représente de la défense, mais on fait aussi les victimes de violences conjugales, les mères monoparentales. On est au tribunal administratif du logement. Quand les gens se font évincer de leur logement pour des rénovations, c'est nous. On représente les accidentés de la route, les accidentés du travail. On a toute une section de droit de l'immigration, donc les demandes des réfugiés. On a un bureau qui se spécialise en santé mentale. On a vraiment beaucoup de compétences. Nos avocats pratiquent dans à peu près tous les domaines de droit.
Puis, il y a un problème majeur d'accès à la justice au Québec, on le sait. L'aide juridique, c'est un peu le dernier recours pour des gens qui n'ont pas d'autres moyens. Ça n'aide pas la cause de l'accès à la justice.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est très incohérent ce qui se passe en ce moment. Monsieur le ministre Jolin Barrette vient de lancer, bien, en fait, depuis un certain temps, lance des gros chantiers là, dans le domaine de la justice. Là, qu'on parle, par exemple, de la réforme du droit de la famille, toutes les conclusions de la commission Laurent là, sur les enfants.
Les tribunaux spécialisés en violence conjugale.
Exactement. Bon. Ça, c'est un autre, le rapport rebâtir, etc. Bref, c'est des gros, gros, gros projets. Ça,
dans lesquels vous êtes impliqué.
Voilà, on est tout cœur avec lui, mais...
Vous voulez être rémunéré à votre juste valeur. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir. La mairesse de Montréal a commenté les débordements qui sont survenus lors du festival Métro-Métro sur l'esplanade du Parc olympique en fin de semaine. Valérie Plante s'est dite troublée par les événements. Elle appelle les organisateurs à prendre leurs responsabilités pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. Des vidéos montraient notamment des personnes renverser une barrière de sécurité pour entrer sans payer ou même escalader le stade pour contourner l'admission.
C'est évident qu'à la vue des images, j'ai été troublée, surtout quand on peut penser à la sécurité, de penser qu'il y a des gens qui auraient pu être blessés à cause justement là, de la moins bonne gestion des barrières. Donc ça, c'est un élément qui va devoir être revu. Ce qui est important, c'est que Métro-Métro prenne ses responsabilités. Puis ils l'ont dit, hein, ils ont dit qu'elle est... ce qui s'est passé n'était pas acceptable. On ne peut pas jouer, il ne faut pas compromettre la sécurité des gens qui sont à l'intérieur du périmètre, autour du périmètre.
Et la mairesse Plante a présenté aujourd'hui les événements qui vont animer le centre-ville pendant l'été. Une centaine d'activités auront lieu entre les avenues Atwater et Papineau et entre la rue Sherbrooke et le fleuve Saint-Laurent. Le retour des festivals devrait ajouter beaucoup d'animation pendant la saison estivale. Mais donc, on va revenir sur ces dérapages au festival Métro-Métro avec l'analyste politique et ancienne élue municipale Justine McIntyre. Bonsoir, Justine.
Bonsoir, Noémie.
Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qui est responsable de la sécurité dans un événement comme ça? Il y a plusieurs joueurs impliqués. Qui on peut blâmer, là? C'est la faute de qui, ce qui s'est passé en fin de semaine?
C'est le promoteur. C'est le promoteur qui est le premier responsable de son événement.
Okay.
Donc, dans ce cas, c'est Midway qui est le promoteur du festival Métro-Métro. Mais il y a d'autres partenaires. Il y a DNA, qui est une autre agence promoteur. Il y a aussi le Parc olympique, évidemment. Donc, il y a un plan de sécurité. D'après ce que j'ai compris, parce que j'ai quand même pris le temps de faire quelques appels pour m'assurer que c'est bien ça, mais c'est vraiment le promoteur qui a la première responsabilité. Mais évidemment, le Parc olympique doit aussi assurer la sécurité des lieux. Donc, responsabilité partagée en quelque sorte, mais en premier lieu, c'est le promoteur.
Et si je comprends bien la manière dont toi, tu vois les choses, c'est que, outre la responsabilité de tout un chacun, c'est le lieu lui-même qui n'est pas adéquat. L'esplanade du Parc olympique pour accueillir un événement comme ça, pour toi, ça n'a pas de bon sens.
Pour moi, ça n'a pas de bon sens pour différentes raisons. D'abord, parce que quand on parle du site même du Parc olympique, on parle d'un site qui fait partie de l'espace pour la vie, avec le jardin botanique, avec d'autres installations très familiales. On peut penser au biodôme. Il y a le stade Saputo qui est à proximité aussi. Donc, c'est un centre, un pôle d'attraction touristique, mais surtout à caractère familial. Donc, la première raison, c'est qu'il faudrait regarder le type d'événement qu'on va accueillir sur ce site-là. Et à mon sens, ça devrait être d'abord des événements familiaux. Il faut considérer aussi le quartier, parce que tout ça est inséré dans un quartier résidentiel quand même assez dense. Donc, malgré le fait que les résidents, on est tous... Parce que moi, j'habite en périphérie, pas loin du Stade olympique, quand même à 1,4 km. J'ai quand même reçu aussi la carte postale qui a été envoyée à l'ensemble des résidents pour nous prévenir qu'il allait y avoir un événement qui allait être bruyant. Donc, même à 1,4 km, c'est-à-dire que nous, on entendait très clairement le bruit du concert. Donc, pour les résidents qui sont vraiment à proximité du stade olympique, ça a dû être vraiment, vraiment très, très bruyant. Donc, ça, c'est la première chose à prendre en considération. Mais deuxièmement, l'aménagement même du site et le fait que sur l'esplanade, il y a tellement de différents points d'entrée que ça devient extrêmement difficile à contrôler. Donc, je comprends que le promoteur a déposé un plan de sécurité qui était quand même un plan qui semblait raisonnable avec 250 agents sur les lieux, 160 caméras autour pour capter des problèmes. Mais ça devient presque impossible quand on fait face à une foule comme ça de contrôler ce site-là.
Et ça te fait même penser au festival Astroworld à Houston, au Texas. Souvenons-nous, il y avait une bousculade lors de ce festival-là qui avait fait 10 morts en novembre dernier.
Oui.
Est-ce qu'un incident encore pire aurait pu se produire?
Je pense que oui, et c'est parce que quand on... Et je fais la comparaison au niveau du comportement de la foule. Donc, quand on voit une foule qui est débridée comme ça, des gens qui arrivent sur place sans billet et qui forcent l'entrée, ça veut dire qu'on fait face au même type de foule que ce qu'on a vu à Astroworld, où est-ce que la même chose s'est produite. Alors, il y avait des gens qui sont arrivés, qui ont forcé les barricades, qui sont passés par-dessus la sécurité, et on a vu la même chose
cette fois-ci. On a évité le pire dans ce cas-ci. On sait déjà que le festival sera de retour en mai 2023 au même endroit, c'est confirmé.
C'est très étonnant.
Peut-être qu'il y aura des ajustements d'ici là.
J'espère.
Merci, Justine.
Merci, Noémie.
Des agriculteurs au bout du rouleau peuvent aller reprendre des forces dans une maison de répit de Saint-Hyacinthe. Ma collègue Fanny Lachance-Paquette s'y est rendue. On vous la présente au retour. Les agriculteurs du Québec doivent jongler avec des embûches de plus en plus complexes et ça affecte leur santé mentale. Heureusement, des ressources existent et les agriculteurs hésitent de moins en moins à y avoir recours. À Saint-Hyacinthe, l'organisme Au cœur des familles agricoles offre la seule maison de répit pour agriculteurs au Québec. Fanny Lachance-Paquette s'y est rendue.
C'est vraiment une maison, bien adaptée. C'est calme, on est à Saint-Hyacinthe, mais on n'est pas proche des champs. Fait que les gens, quand ils arrivent, ils sont vraiment dépaysés de leur milieu naturel. C'est un peu ça l'objectif.
De ne pas y penser.
Non, c'est ça.
Ici, vous avez la seule maison de répit pour les producteurs agricoles au Québec. Comment ça fonctionne?
Ils sont référés par une travailleuse de rang qui est dans un moment stratégique de sa vie où là, elle a des décisions à prendre, puis elle n'arrive plus, puis il faudrait qu'elle sorte de la ferme pour vraiment pouvoir là, analyser sa situation. Ça peut être aussi un producteur, une productrice qui est un état d'épuisement. La très, 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 très forte majorité ne viennent qu'une semaine, mais une semaine, pour un producteur agricole, c'est énorme.
Il y a des interventions à chaque jour aussi. Fait que les gens sont en répit, mais on leur demande de ne pas passer leur journée sur leur cellulaire à vérifier qu'est-ce qui se passe à la ferme.
On entend beaucoup parler depuis les dernières années, bon, effectivement, de leur charge de travail, mais là, on dirait qu'il y a plein d'éléments extérieurs qui leur rendent le travail encore plus difficile. Les hausses de coûts d'intrants, le prix de l'essence ces jours-ci, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, de la relève. Est-ce que c'est plus difficile pour la santé mentale des producteurs en ce moment?
C'est définitivement plus difficile pour la santé mentale. Il y a aussi, quand vous parlez de main-d'œuvre, qui c'est difficile, on parle de plus en plus de main-d'œuvre étrangère, et qu'on se ramasse en plus avec le défi de la langue. Et la complexité de la paperasse, j'ai rempli dernièrement un document qui, avant, avait 20 pages, aujourd'hui, en a 98.
On a 4 chambres, mais on en a 3, dans le fond, qui sont disponibles pour les producteurs parce qu'on a toujours quelqu'un qui est présent pendant les répits. Donc, quelqu'un de jour, puis il y a quelqu'un qui est là aussi de nuit.
Est-ce qu'il y a eu une hausse de l'utilisation des services de l'ACFA au cours des dernières années? Est-ce que les gens se tournent davantage sur les ressources?
Oui, effectivement, à chaque année, là, on a une hausse des demandes. Bon, c'est ça qui peut être attribuable à différents facteurs. Quand on a plus de travailleuses de rang de présentes sur les régions, bien, ça peut augmenter effectivement la demande d'aide. J'ose espérer aussi que c'est ça, qu'une certaine normalisation, on travaille beaucoup, hein, la normalisation de la demande d'aide, là, que ça soit moins stigmatisant.
Vu que c'est pas toujours évident pour les gens de prendre congé pour venir en répit, le fait de pouvoir se ressourcer puis d'intervenir avec les travailleurs de rang, bien, on a la maison de répit a été moins sollicitée, là, notamment pendant la pandémie.
Ça semble difficile quand même d'attirer les producteurs ici, de lâcher la ferme pendant une semaine.
Le lâcher prise, c'est pas quelque chose qui est très, très évident chez les producteurs agricoles. Des fois, c'est ça que les producteurs aiment. Là. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, parce que d'arrêter puis de réfléchir, c'est douloureux. Fait qu'ils aiment mieux, oh, quand ils ne se sentent pas bien, oh, je vais aller travailler.
Puis au final, on frappe un mur. Là.
On finit toujours par frapper un mur.
Le Canada se classe au 28e rang parmi 39 pays riches en ce qui a trait au bien-être environnemental des enfants et des jeunes, selon un rapport du Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF. Le rapport montre que le Canada est loin d'être exemplaire quant à sa consommation de ressources. Il lui faudrait 5 planètes Terre pour maintenir son niveau de consommation actuel. L'Espagne, l'Irlande et le Portugal figurent en tête de ce classement, tandis qu'en bas du classement, on retrouve notamment l'Australie et les États-Unis. Rebonsoir, Étienne.
Bonsoir, Noémie.
Donc, cette fusillade horrible, horrifiante qui est survenue cet après-midi, oui, à Uvalde, au Texas. Qu'est-ce qu'on sait en résumé jusqu'à maintenant?
Bien, donc, ce jeune garçon-là de 18 ans, un Américain qui est entré dans une école, qui a tué 14 élèves, un professeur. C'est l'école élémentaire Robbs, c'est à Uvalde, ville de 16 000 habitants, là, une petite ville à l'ouest de San Antonio. Les autorités, là, en ce moment, sont en train d'appeler les parents avec les terribles nouvelles. Il y a des parents qui sont effondrés à côté de l'école. C'est la pire tragédie au Texas, là, dans une école. Et la cinquième, si le bilan là, se confirme, dans un milieu éducatif aux États-Unis. Mais on sait que les écoles ont été...
Cinquième
plus meurtrière dans l'histoire des États-Unis. On le sait, il y en a eu tellement de fusillades dans des milieux scolaires. Sandy Hook en 2012, Virginia Tech, ça, c'était une université en 2007. Et le président américain va parler donc à ses concitoyens ce soir à 20h15, après cette autre tragédie. Mais on sait qu'il y a un blocage politique qui se poursuit. On va en parler avec Valérie Beaudoin. On aura tous les détails aux 22h.
Oui, vous allez continuer de suivre ça. Merci beaucoup, Étienne.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain à 17h.